Vous voyez quelque chose? Que voyez-vous?
Je vois un tombeau bleu et or.
Oh mon Dieu! C'est extraordinaire.
Monumental.
Je n'en crois pas mes yeux. Regardez ça.
Monumental.
Oui, c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas?
Joanne Ducey. Réalisation. Yves Roulin.
Voici Toutankhamon.
Il a régné sur la haute et la basse Égypte il y a de cela plusieurs dizaines de siècles, et pourtant aujourd'hui encore son nom évoque à lui seul les splendeurs de l'Égypte. 11e pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon doit sa célébrité à la découverte de son fabuleux trésor funéraire, et depuis Toutankhamon ne cesse de faire parler de lui. Il y a quelques mois par exemple, des chercheurs annonçaient que son tombeau renfermerait deux salles jusqu'ici méconnues. Avant cela on a parlé du visage de Toutankhamon reconstitué en 3D. Une série télé a vu le jour, ça c'était dernièrement. Et puis sa tombe peut être visitée dans la Vallée des Rois. Mais il faut savoir que les places sont très chères et les entrées limitées. Mais il existe une réplique de ce célèbre tombeau, réplique réalisée en collaboration avec l'Université de Bâle. En résumé, Toutankhamon fait régulièrement parler de lui. Mais qui était-il? Quel pharaon était-il? Quels sont ses grands travaux? Bref, que peut-on dire de Toutankhamon? Portrait aujourd'hui dans Monumental avec notre invité.
Je suis Florence Marvejol, donc égyptologue et chargée de cours à l'Institut Khéops et auteure également d'un certain nombre d'ouvrages sur l'Égypte ancienne, des ouvrages documentaires.
L'Égypte pharaonique, tout au long de 3000 millénaires, s'est considérée comme le vrai centre du monde.
Archives INA.
Chaque ville d'Égypte se croyait bâtie par les dieux, et le pays, le temple du monde entier.
Quel était le rôle du pharaon dans l'Égypte antique ?
Le pharaon, c'est le personnage le plus important du pays, c'est lui qui gouverne, qui est l'autorité suprême dans tous les domaines, à savoir la politique, donc c'est le chef du gouvernement. Dans le domaine de la religion, c'est le prêtre suprême, qui est normalement le seul intermédiaire entre les hommes et les dieux, et le seul à pouvoir rendre le culte dans les temples. Bon, bien évidemment, comme il ne peut pas être partout, dans tout le pays en même temps, il délègue son pouvoir à des prêtres. C'est également le chef de la justice, et c'est lui qui décide seul, par exemple, de la peine de mort qui est appliquée dans des cas très graves. Donc je disais, le personnage vraiment le plus essentiel, et c'est même la pierre angulaire de la société, une monarchie donc très solide qui va rester donc à la tête du pays pendant 3000 ans, avec quelques périodes de temps en temps d'affaiblissement de la royauté, mais qui saura à chaque fois renaître de ses cendres. Et c'est une institution tellement solide qui va modeler la culture, la religion, enfin la pensée égyptienne, et que même après la disparition du dernier pharaon, qui sera achevé en 332 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne réussira encore à se maintenir pendant presque 7 siècles.
Je suis le pharaon d'Égypte, et je suis lié par des obligations qui m'ont été imposées par les dieux.
On compte en tout beaucoup de pharaons.
Alors c'est un petit peu difficile de compter les pharaons de manière précise, dans la mesure où il y a eu, comme je disais, un certain nombre de périodes de troubles qui ont séparé les périodes brillantes de l'histoire égyptienne. Alors disons qu'on peut évaluer le nombre de pharaons à 500, mais il faut savoir que parmi ces 500 pharaons, il y en a certains qui ne sont que des noms. On ne sait absolument rien à leur sujet, et peut-être même n'ont-ils passé que quelques heures sur le trône. Donc les pharaons dont on connaît l'histoire sont beaucoup moins nombreux.
Je suis ton pharaon!
« pharaon, est-ce que c'est un mot qui veut dire quelque chose?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu l'équivalent de l'Élysée ou de la Maison Blanche de nos jours, hein, puisque pharaon, c'était l'expression père Aa, qui signifiait la grande maison, et la grande maison désignait le palais royal. Et à partir d'une certaine époque, donc, on a pris l'habitude de désigner l'occupant de ce palais par cette expression père Aa, pharaon, donc, qui signifie à la fois grand palais et le roi du pays.
On est à présent en mesure de soulever le masque d'or et de connaître le vrai Toutankhamon.
Est-ce que Toutankhamon, finalement, c'est pas l'un des plus célèbres pharaons de tous les temps ?
Effectivement, on peut dire que Toutankhamon, je pense, l'emporte sur des pharaons aussi brillants que Toutmosis III ou Ramsès II, qui ont accompli une œuvre majeure. Alors que Toutankhamon, on verra, enfin, on connaît pas quand même beaucoup d'informations à son sujet, mais évidemment, c'est son trésor qui l'a fait passer dans l'histoire et qui l'a rendu célèbre dans le monde entier.
Toutankhamon n'avait que 8 ans quand il devint pharaon. Son père, Akhenaton, était un hérétique. Il avait osé défier les dieux traditionnels de l'Égypte. À sa mort, les temples étaient en ruine et l'empire dangereusement menacé. Les Égyptiens espéraient que le jeune pharaon rendrait à leur pays sa grandeur passée. Après son avènement, l'enfant fut baptisé Toutankhamon, ce qui signifie « l'image vivante d'Amon », en hommage au plus grand dieu de l'Égypte.
Qui étaient les parents de Toutankhamon ?
Ah, c'est une bonne question à laquelle on peut répondre pour le père. Il est évident que c'est le pharaon qui l'a précédé, à savoir Akhenaton. Akhenaton qui était l'auteur d'une réforme religieuse qui n'a pas plu à tous les Égyptiens. Toutankhamon, il faut savoir qu'il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans environ, donc c'était un garçonnet. Et en procédant par élimination, il est évident qu'un garçonnet doit monter sur le trône de l'Égypte s'il n'a pas une légitimité absolument parfaite. Donc il est évident qu'il était le fils d'Akhenaton, c'est la seule raison pour laquelle il a pu monter sur le trône. Parce que sinon, il y avait des personnages assez ambitieux dans son entourage qui se seraient emparés du trône. La question du père est à peu près sous contrôle. Il n'en va pas de même avec la mère de Toutankhamon, donc on ne connaît pas. On sait que visiblement ça n'est pas Néfertiti, puisqu'elle n'est jamais représentée avec la reine, jamais associée à la reine. Probablement s'agit-il d'une épouse secondaire d'Akhenaton qui est restée dans l'ombre.
Monumental.
Il ne s'appelait pas Toutankhamon, mais Toutankhaton.
Toutankhaton, oui, parce que bon, je faisais allusion donc à cette fameuse réforme religieuse où Akhenaton, au fur et à mesure de l'évolution de sa pensée pendant son règne, avait imposé à l'Égypte le culte d'un dieu unique. Donc c'était la première expérience monothéiste de l'histoire de l'humanité. Et ce dieu était le dieu solaire Aton, qui prenait la forme d'un disque qui restait dans le ciel. Et il a nommé son fils Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante d'Aton », donc le nom formé sur celui de ce dieu, comme c'était l'usage. À la fin du règne d'Akhenaton, après sa mort, sous le règne justement de Toutankhamon, les Égyptiens vont revenir à la religion traditionnelle, rétablir le culte du dieu Amon, qui avait été complètement éradiqué sous le roi Akhenaton. Et donc, il va y avoir le changement du nom de Toutankhaton en Toutankhamon, qui est l'image vivante d'Amon.
Dans l'ancienne Thèbes, sur la rive orientale du Nil, les grands temples de Karnak et de Louxor témoignent de la puissance des dieux. Chaque village égyptien avait sa propre divinité. La capitale thébaine vénérait le dieu Amon.
Toutankhamon, est-ce qu'il gouvernait réellement, puisque vous le dites, c'est un enfant lorsqu'il accède au pouvoir, est-ce qu'il gouvernait lui-même ou est-ce qu'il était assisté ?
Alors, à 8 ans, effectivement, on peut se poser la question, c'est savoir s'il régnait tout seul. Bon, il est bien évident qu'un enfant de 8 ans, il aurait eu quelques difficultés à gouverner un pays comme l'Égypte. Et il était entouré par deux grands dignitaires, l'un qui s'appelait Aï et qui était probablement le père de la reine Néfertiti, donc l'épouse principale d'Akhenaton, le père de Toutankhamon, et un second personnage, le général Horemheb, qui avait débuté sa carrière également sous le règne d'Akhenaton. Et ces deux personnages, donc c'est eux qui tiennent les rênes du pays, qui prennent les décisions politiques. Et après le décès de Toutankhamon, ils deviendront rois chacun à leur tour. Donc d'abord Aï et ensuite Horemheb qui lui succédera et qui mettra fin d'ailleurs à la 18e dynastie.
Vous le disiez tout à l'heure, Florence Maruajol, on sait très peu de choses finalement sur Toutankhamon. Mais est-ce qu'on sait quel genre, quel type de pharaon il était ?
Alors là, c'est une question disons, plus générale qui concerne un peu l'ensemble des pharaons, à savoir que les Égyptiens n'ont jamais de tenue de chronique de ce qui se passait à la cour. On n'a pas d'équivalent de duc de Saint-Simon à la cour des pharaons. Donc on est bien en peine pour définir le caractère des rois, à savoir s'ils étaient débonnaires, s'ils étaient colériques. On n'a absolument aucune information à ce sujet et donc on n'en a pas plus, malheureusement, en ce qui concerne Toutankhamon. Alors on en est réduit à des hypothèses où, par exemple, pour un roi comme Toutmosis III, qui a mené 17 campagnes militaires en Syrie-Palestine, on peut imaginer qu'il était doté d'une certaine énergie. Mais au-delà, c'est vrai qu'il est absolument impossible de définir la personnalité exacte d'un pharaon.
Peuple d'Égypte, je suis ton pharaon!
Laissant glisser, laissant paraître, frôlant les formes familières. Toi tu étais dense, tu étais, de toute évidence tu étais, comme un non-dit, une apostrophe, entre deux lettres qui s'accrochent, sans aucune impudence, sans aucune imprudence. Fidèle, infidèle, à la fois. Amoureux, amoureuse, je le vois. Dominé, dominant, à la fois. Pudeur, impudique, oh la pudeur. Tu m'as dit, c'est fou, tu m'as dit. En me disant vous, tu m'as dit. La fluidité imaginaire qui se déplace dans vos veines. Va toucher l'intime en touchant des parois infimes en touchant comme un non-dit dans l'atmosphère entre deux lèvres qui espèrent sans aucune impudence, sans aucune imprudence, fidèle, infidèle, à la fois.
François V, la chambre.
Amoureux, amoureuse, je le vois. Dominé, dominant, à la fois. Pudeur, impudique, oh la pudeur. S'il me plaît, S'il me plaît encore, s'il te plaît, rester des heures sans repère, rester des heures. Fidèle, infidèle, à la fois. Amoureux, amoureuse, je le vois. Dominé, dominant, à la fois. Pudeur, impudique. Oh la pudeur.
Aujourd'hui, dans Monumental,
Toutankhamon, l'enfant roi, avec Florence Maruéjol, égyptologue.
Est-ce qu'on sait quels vont être les principaux actes du règne de Toutankhamon ?
Alors, l'une des actions majeures du règne, visiblement décrétée par Haï et Horemheb, c'est la restauration de la religion traditionnelle, qui avait déjà commencé sous le règne du prédécesseur de Toutankhamon, parce qu'il y a eu un règne assez bref entre Akhenaton et Toutankhamon, qui est le règne de Séménère-Carré. Séménère-Carré qui n'a pas régné plus de 3 ans, qui était probablement un frère ou demi-frère de Toutankhamon. Et dès cette époque, les Égyptiens reviennent donc au culte des dieux comme Amon, Ptah ou le dieu Ré d'Héliopolis. Et donc, une partie du règne va être consacrée à la restauration des temples, parce que les temples avaient visiblement été fermés, leur dotation supprimée. Donc, il y avait toute cette restauration à accomplir, donc rouvrir les temples, les réaménager, réinstaurer les clergés et également les ressources, doter les temples de ces ressources. C'est donc ce à quoi vont s'employer Haï Horemheb pendant son règne. Comme le relate, là, on a de la documentation, puisqu'il y a une stèle qu'on appelle la stèle de la restauration, érigé dans le temple de Karnak, le temple du dieu Amon, qui relate ces faits.
J'ai trouvé les temples en ruine. J'ai restauré les sanctuaires, j'ai reconstruit les temples et je les ai dotés de toutes sortes de trésors.
Est-ce que Toutankhamon était aussi un bâtisseur ?
Il l'a moins bâti que certains de ses prédécesseurs, mais là aussi c'est lié en fait à la restauration de la religion traditionnelle. Et il se devait de laisser sa marque dans les grands temples de Thèbes, Thèbes qui est la capitale religieuse avec qui honore le dieu Amon. Dans le temple de Karnak, il construit un édifice près du lac sacré, édifice qui est aujourd'hui ruiné, mais on possède quand même un certain nombre de blocs qui attestent de son existence. Dans le temple de Louxor, qui était également dédié au dieu Amon en même temps qu'au roi, dans ce temple, il fait décorer certaines parois des scènes de la fête d'Opète, donc qui célébrait Amon et en même temps qui renouvelait le pouvoir du roi pour une année. Sur la rive gauche de Thèbes, il fait construire, quand on dit « il », c'est plutôt là aussi Haï Horemheb certainement qui prennent toutes ces décisions. Donc sur la rive gauche de Thèbes est élevé un temple funéraire, un temple qui est destiné en fait à son culte, culte qui commence déjà du vivant du roi et qui bien sûr après se poursuivra après sa mort. Et sur la rive gauche également se trouve la tombe de la vallée des rois. À Memphis, il a certainement aussi laissé sa marque dans le temple de Ptah. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il ait marqué l'Égypte par des constructions monumentales, comme c'est le cas d'autres pharaons.
À quel âge va mourir Toutankhamon ?
On estime qu'il est mort vers l'âge de 18 ans, c'est-à-dire qu'il a passé une dizaine d'années sur le trône. Les raisons de sa mort sont encore inexpliquées, malgré les études récentes qui ont été faites sur sa momie, les analyses de l'ADN. On a constaté qu'il avait eu une fracture. C'est peut-être cette fracture qui s'est envenimée et qui a causé sa mort. Alors on avait invoqué de manière un petit peu spectaculaire, si on se trouvait dans le film de Ben-Hur, un accident de char. Et là, on n'a absolument aucune preuve pour évoquer cet accident.
Égypte, 1er novembre 1922. Une équipe d'ouvriers effectue des fouilles dans la vallée des rois. Ils ignorent encore qu'à près de 9 mètres sous leurs pieds gisent des quantités d'or dont ils n'ont même pas idée.
Archives INA.
Ils sont sur le point de découvrir la tombe d'un pharaon creusé dans la roche calcaire
dont les pièces abritent des quantités d'objets fabuleux. Au cœur de la chambre funéraire gît le corps du pharaon défunt, le célèbre Toutankhamon.
Alors c'est toute une aventure et il y a deux personnages qui sont particulièrement liés à cette découverte, à savoir Howard Carter qui est un Anglais et archéologue, et son compatriote Lord Carnarvon qui est un riche aristocrate anglais qui est venu en Égypte pour des raisons de santé, qui va s'intéresser à l'archéologie, rentrer en contact avec Howard Carter, et les deux hommes vont mener des recherches archéologiques. Et assez rapidement, en fait, Howard Carter, qui avait exercé les fonctions d'inspecteur des antiquités, donc l'institution officielle qui gérait les antiquités de l'Égypte, et il avait mené quelques fouilles dans la vallée des rois sur son temps libre pour le compte d'un millionnaire américain qui s'appelait Theodore Davis. Theodore Davis qui avait obtenu la concession de fouilles de la vallée des rois. Howard Carter n'a été que l'un des archéologues qui ont mené des recherches. Et donc Howard Carter a déjà une petite idée de la vallée des rois. Et il pense que lorsque Theodore Davis termine ses travaux dans la vallée des rois et déclare d'un ton péremptoire qu'il n'y a plus rien à trouver dans la vallée, Howard Carter n'est pas tout à fait de cet avis et il pense qu'il y a encore une tombe qui reste à découvrir, notamment celle de Toutankhamon, dont on peut lire encore le nom ici et là, sur les reliefs par exemple du temple de Louxor, même si son cartouche avait parfois été effacée, bon, il restait quand même un peu lisible. Et malheureusement, donc, il ne peut pas encore faire de fouilles avec Lord Carnarvon, puisque la concession appartient à Davis. Davis donc, va finir par rendre cette concession au service d'antiquité, et Howard Carter convainc Lord Carnarvon d'en faire la demande. Demande qui est satisfaite par le directeur des antiquités de l'époque, qui est un Français, à la veille de la guerre de 1914, ce qui fait que Howard Carter ne pourra commencer les fouilles à la recherche de cette tombe qu'en 1917. Il mène une première campagne de fouilles en 1917, suivie ensuite de trois autres campagnes. Au bout de la quatrième campagne, Lord Carnarvon, dont la fortune a été un petit peu écornée quand même par le passage de la guerre, commence à s'impatienter parce que les fouilles, malgré tout, ces travaux coûtent très cher. Et au terme de la quatrième campagne, donc, il explique à Howard Carter qu'il ne désire pas poursuivre ce financement. Howard Carter va plaider sa cause de manière très vibrante et propose même à Lord Carnarvon, bon, s'il l'autorise à travailler sur sa concession, parce que c'est lui le responsable officiel du site, s'il a l'autorisation de travailler sur sa concession, il propose de financer lui-même les recherches. Bon, là-dessus, Lord Carnarvon est très branlé par autant de convictions et accorde à Carter une dernière campagne de fouilles, la cinquième campagne de fouilles, qui va s'ouvrir donc en octobre, à la fin octobre 1922. Cette campagne est la bonne et là, en fait, Howard Carter revient sur la partie en fait, de la vallée des rois où il avait entamé ses recherches en 1917. Et à cet endroit se trouvaient des vestiges de cabane des ouvriers qui travaillaient dans la vallée des rois, qui étaient responsables du creusement et de la décoration des tombes. Il fait démolir au tout début de cette cinquième campagne en 1922, il fait démolir ces cabanes et très rapidement, quelques jours après le début des fouilles, des ouvriers l'appellent en lui montrant qu'il venait de découvrir en fait une marche d'escalier. Alors il dégage un petit peu cette marche et là découvre qu'il s'agit véritablement enfin de non seulement d'une marche mais de tout un escalier. Donc il fait recouvrir cette découverte, il télégraphie immédiatement à Lord Carnarvon qu'il a trouvé quelque chose, en même temps, enfin, en dégageant l'escalier, il avait aussi découvert le sommet d'une porte, donc qui justifiait ce télégramme à Lord Carnarvon, qui était encore en Angleterre, pour qu'il vienne en Égypte, dardard, assister à ce qui peut être cette découverte. Il n'a pas encore trouvé de cartouche, le nom de Toutankhamon. La partie qu'il a dégagée comporte simplement les sceaux de la nécropole de la vallée des rois. Et très rapidement, en fait, Howard Carter et Lord Carnarvon vont réaliser qu'ils ont bien découvert la tombe de Toutankhamon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Difficile à dire.
Ça doit être la tombe de Toutankhamon.
Oui, c'est possible.
Allons-y.
Derrière la porte, hein, se trouve un couloir qui est encore encombré de déblais. Là, ils ont un instant, enfin, ils sont un peu dubitatifs parce qu'ils réalisent en fait que dans ces déblais, il y a une sorte de passage par lequel sont passés les voleurs et ils se demandent s'il y a encore quelque chose à trouver dans cette tombe ou si les voleurs l'ont complètement dépouillé de son contenu, comme ça a été le cas de la plupart des tombes de la Vallée des Rois. Donc, il y a encore un suspense que vivent les deux hommes jusqu'au moment où les déblais étant évacués, ils se trouvent face à une deuxième porte. Et là, Howard Carter va creuser un petit trou au sommet de cette porte, de cette cloison en fait en maçonnerie, pierre et plâtre. D'abord, il passe une bougie par ce trou pour s'assurer qu'il n'y a pas une accumulation de gaz de l'autre côté de la cloison. Et bon, une fois rassuré, il colle son œil à la cavité, toujours là, avec une lampe, cette fois une lampe électrique pour voir un petit peu plus en détail. Et c'est là-dessus qu'il s'exclame, qu'il répond à Lord Carnarvon qui s'impatiente d'un autre côté, qu'il dit « Mais enfin, que voyez-vous, Carter ?»«
Je vois des merveilles. »
Une découverte donc spectaculaire, puisque bon, il y avait un certain nombre d'objets, de meubles de Toutankhamon qui avaient été revêtus de feuilles d'or, et évidemment tout cela miroité à la lueur de la lampe électrique d'Howard Carter.
Dieu.
Je n'en crois pas mes yeux. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est?
Peut-être des lits et des tables.
On dirait qu'ils ont été fabriqués hier.
Ils ont plus de 3000 ans.
C'est incroyable.
Un grand moment d'émotion pour les deux hommes et qui est le couronnement quand même d'années de recherche, de doutes, notamment ceux de Lord Carnarvon, et découverte qui doit beaucoup à Carter et à son acharnement, à cette conviction qu'il avait que cette tombe se trouvait bien dans la Vallée des Rois.
Là, dans une chambre basse, Anubis, le dieu chien aux yeux d'albâtre et d'obsidienne, veillait sur un extraordinaire trésor, une collection d'objets d'art de l'ancienne Égypte, comme on n'en avait encore jamais vu rassemblés. Les pillards avaient épargné ces statuettes de divinités, ces remarquables reproductions de voiliers en usage 14 siècles avant notre ère, ce trône doré du roi Soleil, sur le dossier duquel un artiste avait représenté le jeune pharaon, Toutankhamon et son épouse. D'innombrables vases d'ivoire ou d'albâtre, vases à parfum et à onguent. Les viscères du souverain avaient été déposés dans ce coffre doré, veillé par 4 ravissantes déesses.
C'est monumental. Sur la première.
Mohamed Mounir sur la première.
Tarik en nakan hunne, wailan ni wailan.
monumental.
1922, la vallée des rois. Alors qu'Howard Carter descend dans les entrailles de la terre, il est loin de se douter qu'il a mis la main sur le tombeau d'un roi. Des sculptures d'animaux, des chars, des statues divines pour guider le défunt dans l'au-delà, et partout, le scintillement de l'or. Il faudra des semaines à Carter pour explorer toute la sépulture et trouver une deuxième chambre encore plus fastueuse. Une chambre funéraire contenant un immense autel doré qui occupe presque tout l'espace. À l'intérieur, trois autres autels encore plus luxueux. Et enfin, un sarcophage en pierre et une succession de cercueils dorés imbriqués les uns dans les autres. Le dernier renferme une momie dont le visage est recouvert d'un masque en or massif. Un souverain reposant avec faste.
L'annonce de cette découverte va faire la une des journaux et les curieux, ils vont venir en nombre. Ils veulent voir le trésor de Toutankhamon.
Alors oui, on n'est pas encore à l'époque du tourisme de masse, comme aujourd'hui, disons jusqu'à 2011, jusqu'à la révolution égyptienne, où là se pressaient des foules compactes dans les monuments égyptiens. À l'époque, en 1922, le voyage en Égypte est encore le fait de certains privilégiés. Et c'est ce qui va aussi poser beaucoup de problèmes à Lord Carnarvon et surtout à Howard Carter. C'est que parmi ces privilégiés, certains sont des personnages importants et évidemment qui demandent à voir la tombe, à visiter la tombe. Et il est un peu difficile de refuser à ces personnages la visite de cette sépulture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout imaginer aujourd'hui, puisque ces visites avaient lieu dans une tombe où les objets étaient encore en place, étaient extrêmement fragiles. Quelque chose de tout à fait inimaginable de prendre le risque d'endommager ces objets qui n'avaient pas encore été traités donc par l'équipe de Carter. Mais voilà, c'était une autre époque. Et en plus, ces visites gênaient le travail de l'équipe de Carter. Carter qui était assisté par des membres du Metropolitan Museum de New York, notamment le photographe, un chimiste. Énormément quand même de travail à faire sur ces objets pour les consolider, certains qui partaient en poussière. Donc un travail colossal à accomplir, un travail délicat. Et cette malheureuse équipe qui évoluait dans une tombe, je pense qu'on se représente assez bien cet espace qui fait environ 100 mètres carrés, un espace très étroit dans lequel donc les archéologues étaient contraints d'évoluer. Et dans ce petit espace, il fallait en outre recevoir des visiteurs et en tremblant à l'idée qu'ils allaient détériorer un objet.
Oui, oui, monsieur.
C'est ridicule, monsieur. Tous ces gens se conduisent comme s'il s'agissait d'une espèce de phénomène de foire.
Savez-vous combien il y avait de personnes ici hier?
12 000. 12 000, vous entendez? Mais au nom du ciel, d'où sortent-ils tous ces gobe-mouches? Ça commence à rendre le travail impossible et ça finira un jour ou l'autre par un accident.
Je crois qu'il faudra prendre votre mal en patience, mon vieux. Oh. Cette découverte suscite un intérêt et un engouement tout à fait extraordinaire. J'ai passé la matinée à accorder des interviews. Nous faisons la une des journaux, Howard.
En tout cas, moi, personne ne m'a rien demandé. Sinon, je leur aurais dit à tous de disparaître de ma vue.
Vous ai-je dit que Sa Majesté m'a invité à Buckingham pour lui raconter vos exploits?
Donc ces visites vont constituer un réel problème et être vraiment une pomme de discorde en fait après la disparition de Lord Carnarvon qui meurt en 1923. Howard Carter va se retrouver seul face aux autorités locales et donc il n'était pas réputé pour son caractère diplomatique. Lord Carnarvon, qui faisait un petit peu tampon, donc n'est plus là pour rendre ce service. Et Howard Carter va s'opposer très brutalement aux autorités locales et aux responsables du service des antiquités de l'Égypte, qui à l'époque était un Français, mais service qui était placé sous l'autorité du ministère des Travaux publics égyptien. Et à l'époque, bon, c'était encore les Anglais qui dominaient l'Égypte. Donc il y a beaucoup de tensions diplomatiques entre Français et Anglais, entre Égyptiens, parce que bon, c'est aussi le réveil de l'Égypte avec les nationalistes égyptiens qui ne comprennent pas pourquoi on leur confisque la découverte, puisque outre le problème des visites, donc un problème très sérieux, il y a aussi le problème des relations avec la presse, où Lord Carnarvon a eu la maladresse de signer un contrat d'exclusivité avec le journal londonien, le Times. Maladresse, mais en même temps, bon, Lord Carnarvon, ça on peut le comprendre aussi, avait énormément investi dans les travaux de recherche dans la Vallée des Rois, et pour lui, bon, il recherchait aussi une forme de compensation à ses investissements. Toujours est-il bon, que c'était extrêmement maladroit, puisque selon ce contrat d'exclusivité, le Times annonçait les découvertes faites dans la tombe, l'évolution des travaux, et les autres journaux, aussi bien les journaux égyptiens, les journaux locaux, que les journaux étrangers, attendaient que le Times ait publié ces informations pour eux-mêmes les publier, en général avec 24 heures de décalage. Et là aussi, ça avait créé énormément de problèmes avec la presse égyptienne, qui va être extrêmement critique, et qui après de nombreux débats va réussir à obtenir un compromis et pouvoir publier les nouvelles concernant la tombe à peu près en même temps que le Times de Londres.
Toutankhamon, la découverte égyptologique la plus sensationnelle de ce siècle. Le Times, 16 février 1923.
Cette découverte finalement, est un petit peu empoisonnée, dans la mesure où ça va créer donc énormément de tensions qui vont mener même jusqu'à la fermeture de la tombe. Pendant un an, Howard Carter n'aura pas accès à la tombe. La tombe sera fermée et il faudra encore de nombreuses négociations pour que Howard Carter temporise et accepte un certain nombre de compromis et pour que les travaux reprennent de manière un peu plus sereine dans cette sépulture.
Les anciens Égyptiens se sont donné beaucoup de mal pour s'assurer que les esprits de leurs défunts rois seraient protégés pour l'éternité. Dans les profondeurs de la terre, les pharaons étaient enterrés avec tous leurs trésors. Depuis cette dernière demeure, ils devaient voyager en paix jusqu'au monde suivant. Les Égyptiens croyaient que quiconque aurait tenté d'interrompre leur parcours serait victime d'une malédiction mortelle.
Monumental. Alors, la malédiction est liée, ces problèmes que j'évoquais avec la presse, avec ce souci qu'ont les journaux étrangers et locaux d'annoncer toujours avec un temps de retard les découvertes. Et en fait, ce sont des journaux anglais qui vont lancer les premiers ces rumeurs de malédiction, qui est peut-être aussi une manière de vendre un peu de la copie en se fondant sur cette fabuleuse découverte et pour contourner ce petit problème du manque d'accès aux informations. L'idée de la malédiction ne vient pas non plus par hasard, puisque il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on baigne beaucoup dans l'occultisme, on fait tourner les tables, on invoque les esprits. La littérature aussi invoque beaucoup le retour des momies. Donc on est quand même dans une atmosphère, on baigne un peu dans cette atmosphère d'occultisme et de malédiction. Et donc c'est un journal anglais qui va commencer par lancer ses rumeurs, notamment au moment de la mort, de la maladie et de la mort de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon qui, lors de son séjour donc à Louxor, après la découverte, en 1923, au début de l'année 1923, va être piqué par un moustique. Cette piqûre va s'infecter et dégénérer. Lord Carnarvon contracte une pneumonie, donc son état ne va faire qu'empirer. Mais bon, les journaux se sont emparés de ces soucis de santé de Lord Carnarvon pour demander si c'est le moustique n'avait pas été envoyé par Toutankhamon, si ça n'était pas la vengeance de Toutankhamon. Et évidemment, chaque jour a porté son lot de révélations dans la presse. Une femme écrivain, la Marie Corelli, avait expliqué qu'elle avait envoyé une lettre à Lord Carnarvon, le prévenant du danger qui le menaçait à la suite de la découverte de la tombe. Bref, enfin, donc toute cette malédiction prend de l'ampleur. Et ensuite, on s'emploie à trouver des visiteurs, ceux qui ont visité la tombe et qui sont décédés à la suite d'une visite de la tombe. Bon, alors je pense que dans n'importe quel groupe humain, si on regarde, enfin, qui est vivant ou mort après un certain temps, on va toujours trouver effectivement des décès qu'on veut considérer comme inexpliqués. Mais voilà, enfin, l'origine de la malédiction de Toutankhamon est plutôt à chercher dans des journaux qui étaient avides de sensationnels et qui avaient besoin donc de vendre de la copie autour de cette découverte.
L'éblouissement de Carter devant ces merveilles trois fois millénaires, Paris va pouvoir le partager. Avec le lit rituel aux montants sculptés en forme de vache, des pièces importantes du trésor ont été prêtées par le musée du Caire à la suite de l'accord passé par M. André Malraux avec le gouvernement égyptien. Les visiteurs du Petit Palais découvriront ces bijoux qu'avait portés le jeune pharaon. Ils découvriront ces éléments du mobilier royal.
Archives INA, 1967.
Toutankhamon a toujours fasciné. Les expos, il faut bien le dire, les expositions qui lui sont consacrées, elles ont été nombreuses depuis la découverte de son trésor.
Alors l'Égypte a organisé effectivement une très grande exposition qui a tourné dans le monde pendant un certain temps pour faire connaître ses trésors. Régulièrement, il y a aussi des expositions organisées par l'Égypte avec quelques-unes des pièces, bon, certaines qui ne vont plus sortir d'Égypte, comme le masque en or, qui, voilà, qu'on ne veut plus prendre le risque de faire voyager des objets qui sont absolument uniques et irremplaçables. Il y a également enfin, une exposition qui tourne avec des répliques de la tombe qui évoque le moment de la découverte et aussi une réplique d'un certain nombre d'objets. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces répliques sont faites aussi en Égypte par des sculpteurs égyptiens. Donc c'est intéressant parce que pour eux, c'est aussi retrouver un peu les techniques de leurs ancêtres. Voilà, donc c'est tout l'intérêt aussi de ces expositions faites à partir de répliques.
Monumental, Toutankhamon l'enfant roi, avec Florence Maruéjol, égyptologue.
En 2015, on reparle de Toutankhamon, ou plutôt de sa barbe.
Ah oui, l'épisode de la barbe de Toutankhamon au musée du Caire. Une histoire, disons, à plusieurs volets, plusieurs épisodes, puisque tout a commencé quand les employés du musée du Caire ont voulu ouvrir la vitrine, et là-dessus, le masque a basculé, et la barbe s'est détachée du masque de Toutankhamon. Là-dessus, on a fait l'appel à un restaurateur au sein du musée qui a jugé bon d'utiliser de l'époxy, qui est une colle extrêmement forte, utilisée pour le métal et la pierre. Donc, il a recollé la barbe avec de l'époxy, ce qui est totalement inimaginable et qui a fait frémir d'ailleurs d'horreur un certain nombre de conservateurs et restaurateurs du musée du Caire quand ils l'ont vu se saisir de la fameuse substance. En plus, l'opération a été quand même assez mal faite puisque la colle a débordé sur le masque. Et dans un deuxième temps, comme il y avait eu quand même quelques réflexions, je pense, de la part donc déjà des conservateurs et restaurateurs au sein même du musée et sans doute aussi déjà de quelques journalistes, le restaurateur est venu achever son œuvre à coups de scalpel pour gratter sur l'or la colle qui avait débordé. Le scandale a fini par éclater. On a constaté les dégâts qui avaient été faits sur le masque. Là, on a fait appel à un restaurateur allemand qui a mené une étude assez poussée déjà du masque et de sa composition avant d'entreprendre donc la restauration. Grâce à ce travail, on peut aujourd'hui voir le masque de nouveau dans toute sa splendeur, débarrassé de la méchante époxy. Voilà, et je crois que le restaurateur en question, lui, a été nommé au musée des carrosses. On pourra utiliser la colle sur les roues, sans doute, voilà, à la suite de cette malencontreuse intervention.
L'Égypte en est sûre à 90%. le tombeau du pharaon Toutankhamon recèle encore des trésors cachés. Deux espaces vides situés derrière les épais murs du mausolée ont été repérés lors d'analyses menées par une équipe japonaise.
L'équipe du professeur Watanabe nous a dit qu'il y avait différentes choses derrière les murs. Différents matériaux qui pourraient être du métal, de la matière organique.
Les autorités égyptiennes pensent y découvrir la chambre funéraire d'une épouse d'Akhenaton, le père de Toutankhamon, voire d'une de ses filles. Pour les plus optimistes, il pourrait s'agir de la célèbre belle-mère de Toutankhamon, la mystérieuse reine à la beauté légendaire, Néfertiti.
La sépulture de Toutankhamon, elle fait aussi régulièrement parler d'elle. Depuis quelques mois, on en parle beaucoup. Hein. Des archéologues affirment que le tombeau abriterait deux salles qui, jusqu'ici, étaient méconnues. Quel est votre avis sur cette affirmation ?
Alors, l'avis déjà, bon, c'est-à-dire qu'il y a une première série de scans qui a été exécutée et d'après ces scans, il y aurait donc des cavités. Alors, de là à dire qu'on reconnaît deux salles, je crois que c'est un petit peu exagéré. Ensuite, bon, les Égyptiens ont demandé d'autres études, hein, parce qu'il n'est absolument pas question d'aller percer des trous dans la tombe de Toutankhamon sans avoir la certitude absolue qu'il y a quelque chose à trouver derrière. Et en fait, la deuxième série de scans n'a rien fait apparaître. Donc en fait, on en est là pour l'instant. Donc c'est le statu quo avec une série de scans qui indiquerait qu'il y a peut-être quelque chose. Et une deuxième série de scans bon, qui montre qu'il n'y a rien. Quant à la théorie bon, qu'il s'agirait derrière la tombe de Toutankhamon, enfin, qu'elle se poursuivrait et que certaines de ses parois recèleraient la tombe de la reine Néfertiti, là, on n'a absolument aucune preuve sérieuse de ce qui est avancé. C'est une hypothèse émise par un archéologue hein, qui a eu cette idée, mais on n'a absolument aucune preuve. Bon, ce qui est un peu étonnant, parce que bon, déjà, bon, en général, peu de reines sont enterrées dans la vallée des rois. Bon, c'est arrivé bon, que quelques épouses royales le soient, mais enfin, bon, ce n'est pas le cas le plus général. Et enfin, bon, considérer que c'est une tombe de Néfertiti en tant que pharaon. Enfin, bon, là aussi, il y en a beaucoup d'hypothèses et aucune preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de belles découvertes qui sont faites en Égypte, hein, même si elles ne concernent pas le tombeau de Toutankhamon. Tous les ans, hein, donc des équipes internationales travaillent en Égypte avec la collaboration des Égyptiens et font de très belles découvertes qui enrichissent constamment notre connaissance de l'histoire égyptienne. Ils découvrent aussi de beaux monuments. Enfin, récemment, on a découvert une petite tombe de dignitaires Ramesside dans la nécropole thébaine avec de très belles peintures très bien conservées. Il y a aussi la découverte d'un roi qui était, dont on ne connaissait pas les monuments dans la nécropole d'Abydos. Enfin, donc c'est constamment, sans arrêt, qu'il y a de très belles découvertes en Égypte, mais voilà, c'est peut-être moins emblématique que la tombe de Toutankhamon. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas autant.
On l'a dit, Toutankhamon est certainement le pharaon le plus célèbre. Mais selon vous, quel autre pharaon mériterait d'être davantage connu ?
Alors, je réponds tout de suite, Toutmosis III. Toutmosis III, bon, évidemment, j'ai un petit peu travaillé dessus. Donc ça,
vous l'aimez beaucoup.
Voilà,
hein.
J'ai un petit... voilà. Mais enfin bon, c'est quand même justifié hein, dans la mesure où probablement le trésor de Toutankhamon n'aurait pas existé sans Toutmosis III. Toutmosis III est le pharaon qui a bâti l'Empire égyptien, un empire hein, sur lequel ses successeurs du Nouvel Empire vont vivre. Bon, un empire hein, qu'ils consolideront aussi. Mais donc c'est ce roi, je veux dire, qui a apporté à l'Égypte une très grande prospérité. Non seulement bon, c'était un pharaon guerrier, mais c'était aussi apparemment un personnage hein, qui s'intéressait à beaucoup d'autres aspects hein, de la culture et de la civilisation. Et il s'intéressait aux techniques, par exemple, lorsqu'il a mené ses campagnes en Syrie, il s'intéressait donc aux techniques qu'il découvrait sur place. Hein, c'est à partir de son règne qu'on a importé la technologie de la fabrication du verre en Égypte. Bon, il s'intéressait aussi au perfectionnement des armes, hein, en voyant justement ce que l'on faisait à l'époque en Syrie. D'après son entourage aussi, il s'intéressait aux lettres. Donc, un pharaon, je veux dire, qu'il y avait des intérêts multiples. Et donc là aussi, c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas plus d'informations sur sa personnalité. En tout cas, un très grand souverain qui a considérablement marqué l'histoire de l'Égypte, beaucoup plus que Toutankhamon, qui lui ne l'a marqué que parce qu'il était le propriétaire d'un trésor fabuleux.
Donc vous reviendrez, Florence Maruajol, nous parler de Toutmosis III.
Oh, avec grand plaisir.
Merci à Florence Maruajol, égyptologue, d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans Monumental pour nous parler de Toutankhamon, l'enfant roi. Cette émission ainsi que les précédentes peuvent être réécoutées sur la page internet de Monumental, c'est rts.ch/monumental. Quant aux réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook, RTS Monumental. La semaine prochaine, il sera question d'un micro-État.
La principauté de Monaco, un des plus petits états souverains d'Europe, adossé à la montagne et baigné par la mer. Une principauté vieille de plus de 7 siècles, depuis que les Grimaldi en ont pris possession en 1297. Rayonnante aux yeux du monde aujourd'hui, à l'image de ses princes et de ses princesses.
L'histoire de Monaco avec notre invité Thomas Fouilleron, le directeur des archives de la bibliothèque du Palais Princier, c'est prochainement dans Monumental.
Natacha Atlas, Soleil d'Égypte.
Stéphanie Jovanovic, Stéphanie Coudray, Yves Roulin et Johan Ducey vous souhaitent une belle après-midi à l'écoute de la première. Il est 15h.